émission, l'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Sur la porte, il n'y a aucun nom. Malgré tout, il sonne à l'appartement. La porte, qui est sur le même palier, s'ouvre et apparaît un homme grand, maigre, les cheveux blancs, habillé en t-shirt de marin, marine et jean qui lui manque. Monsieur, l'appartement est inhabité. Vous cherchez quelqu'un?
Oui, monsieur. Je cherche un dénommé Xavier Larmont. Est-ce que vous connaissez? Il paraît qu'il habitait ici.
Ne lui dit.
Je ne connais pas de personne de ce nom. Et cela fait déjà quelques années que je vis ici. Pour ce qui est de cet appartement, le propriétaire ne le loue plus. Car pour le louer, il serait obligé de faire des rénovations trop coûteuses.
Xavier se sent dépité et ne sait que faire. L'homme le voit soucieux et lui demande :
Vous êtes sûr que cette personne a habité dans cet immeuble ? Il est peut-être dans un autre immeuble, à une autre adresse.
Jean-Pierre lui dit : Je ne sais pas, je n'ai que cette adresse.
Le lui demande, vous recherchez cette personne pour quelque chose d'urgent?
Oui, non, ceci est un peu compliqué. J'ai appris l'histoire de cette personne. J'aimerais lui poser des questions sur certaines choses. D'après ce que je sais de lui, il habitait ici.
Le lui dit,
je ne vois pas. Peut-être devriez-vous vous renseigner chez les commerçants du quartier.
Vous avez raison. Oui, c'est la seule chose que je peux faire, monsieur. Merci.
Ce n'est rien, monsieur.
Et l'homme ferme la porte en regardant d'une façon intriguée Jean-Pierre. Jean-Pierre descend les escaliers en se demandant ce qu'il va faire.
Lorsqu'il descend les escaliers, il croise une vieille femme, grande, grosse, cheveux gris. Elle a un manteau vert usé et porte un caban noir à la main. Arrivée vers lui, elle lui demande « Vous cherchez quelque chose, monsieur ? Je pourrais mieux vous renseigner que cette personne, qui n'est pas très, disons, sûre et intéressante. Il a des morses un peu bizarres et reçoit des gens peu fréquentables. Peut-être ne vous a-t-il pas bien renseigné ?» Jean-Pierre lui dit « Je cherche une personne qui a habité ou qui habite peut-être encore dans ce quartier et qui s'appelle Xavier Darmon. Je le cherchais dans cet immeuble car d'après mes renseignements, il devait y habiter. » La femme réfléchit, lui dit « Je ne connais personne de ce nom. Et pourtant, cela fait 50 ans que j'habite cet immeuble. Vous avez dû vous tromper de numéro. Il y a tellement d'immeubles dans ce quartier. Merci, madame. » Elle le regarde d'une drôle de façon et lui demande « Vous lui voulez quoi à cette personne ?» Jean-Pierre est surpris par cette question et lui dit « Je voulais simplement un renseignement sur lui pour savoir si tout allait bien pour lui. Je suis un de ses lointains parents. » La femme ne dit rien et le dépasse. Xavier, arrivé en bas, voit une femme qui semble être la concierge ou celle qui fait le nettoyage de l'allée. Elle a un seau d'eau pas très propre et un valet espagnol près d'elle. Elle lui demande « Vous cherchez quelque chose ?»« Je cherche une personne qui s'appelle Xavier Darmon. » La femme fait la grimace et lui dit « Je ne vois pas !»« Merci, madame. » Jean-Pierre quitte l'immeuble, mais il a une drôle de sensation. Jean-Pierre quitte l'immeuble, mais il a une drôle de sensation. Il a vu la grimace de la femme et se dit qu'elle n'a pas aimé qu'il parle de Xavier. Pourquoi ? Une petite épicerie. Petite épicerie de la rue pour demander si on ne connaît pas Xavier Darmon. Une vendeuse, une petite grosse blonde avec une blouse blanche lui répond en hésitant et un peu troublée. Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Il fait plusieurs commerçants et demande aux personnes qui croisent, personne ne connaît Xavier Darmon. Mais Jean-Pierre sent que les gens sont troublés lorsqu'il leur pose cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Il se promène encore dans les rues et il a de plus en plus l'impression de se trouver dans un de ses rêves. Le soir tombe, les rues sont de plus en plus désertes. Je me souviens que de Sainte-Croix, de Lyon, habite aussi pas très loin de ce lieu où habitait Xavier. Alors il décide, c'est d'aller voir. Il retrouve la rue où habitait de Sainte-Croix. La rue est moins lugubre que celle où habitait Xavier. Mais malheureusement, il s'aperçoit que l'hôtel particulier où habitait de Sainte-Croix a été démoli et remplacé par un immeuble moderne de 5 étages. Il a l'impression que Xavier et de Sainte-Croix ont été effacés du monde où ils ont vécu. Ils décident, c'est de retourner à l'hôtel qu'il a vu en arrivant pour passer la nuit à Lyon. Et le lendemain, comme il n'y a rien de nouveau, il quittera cette ville. Il va à l'hôtel pour prendre une chambre. Le hall d'entrée de l'hôtel ressemble à un couloir. C'est sombre, pas très propre. Il y a de la moquette rouge tachée et poussiéreuse. Une petite banque où se trouve un homme petit, maigre, cheveux gris jaune. Jean-Pierre lui demande « J'aimerais s'il vous plaît une chambre pour cette nuit. » L'homme qui est à la banque le regarde d'une drôle de façon, car il n'a pas de bagage, mais il lui donne une petite chambre minable au premier étage. « Chambre 5, premier étage. Merci. » Jean-Pierre prend la clé et se souvient que Xavier, d'après ce qu'il a écrit dans son carnet, a vécu quelque temps ici dans cet hôtel. Alors il lui demande « Est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui a passé quelque temps dans votre hôtel et qui s'appelait Xavier Darmon ?» L'homme réfléchit et lui dit « Non, je ne vois pas. Il y a combien de temps ?»
Quelques années.
Non, je ne vois pas. Mais moi, je suis ici que la nuit.
Vous n'avez pas un livre où sont inscrits les personnes qui viennent loger ici?
Non. Et puis, il faudrait voir dans les archives. Et c'est impossible.
Merci, monsieur.
Xavier prend les escaliers pour aller à sa chambre. Sur les escaliers étroits et sombres se trouve une moquette beige sale et poussiéreuse. Il arrive à un couloir aussi sombre et avec la même moquette.
Il trouve la chambre numéro 5. Ouvre la porte, éclaire, le plafonné est un lustre genre 1960 en métal. La lumière donne une lumière jaune sable. C'est une petite pièce tout en longueur avec un lit à deux places qui a un couvre-lit en tissu crème délavé. Une table de nuit avec dessus une lampe de chevet qui a un pied en bois et un abat-jour en tissu rouge. Une petite armoire sans âge à une porte, une chaise et un petit lavabo qui semble pas très propre. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue avec des rideaux en tissu rouge usé. Le sol de la chambre, c'est du lino jaune taché, tout est sombre, lugubre. Mais comme il est fatigué et déçu par sa journée, il se déshabille en mettant ses vêtements sur la chaise, reste en slip et entre dans le lit. Le lit n'a pas des draps très propres et ils sont usés. Tout cela le dégoûte, mais il se dit que ce n'est que pour une nuit. Il se dit aussi que ça ressemble beaucoup à un hôtel de passe, sans être un hôtel de passe, puisqu'il n'y a pas de fille.
Il s'endort épuisé. fait des rêves encore plus étranges et lugubres. Il a l'impression qu'il va vivre à la place de Xavier, de Sainte-Croix, dans cette ville lugubre. Il se réveille en sueur et voit ce décor où il se trouve. Il a peur d'avoir changé de personne et être devenu Xavier à Lyon. Mais très vite, il se souvient de ce qu'il fait ici. Tout en restant dans son lit, il réfléchit, se dit qu'il veut résoudre et chercher des énigmes de 203, Xavier Darmon et les autres, qui sont peut-être dans une autre époque ou morts. Dans celle-ci d'époque, ils auraient l'impression de ne pas être de cette époque et de ne pas avoir vécu.
Il sort de sa chambre après s'être habillé sans avoir fait sa toilette et va payer pour sa nuit. Il va payer à la personne qui est là à la banque, qui n'est pas la même que celle de cette nuit. C'est un homme gros, la jovial, chauve. Il a un pull rouge. Jean-Pierre lui dit « Bonjour monsieur, je viens payer ma nuit. »« Bonjour monsieur, vous êtes ?»« Jean-Pierre Junier et je suis venu en fin de soirée pour prendre une chambre ici, la numéro 5. » L'homme regarde sur un papier et lui dit « Oui, je vois. » Cela fait, Xavier lui fait un chèque et avant de se retirer, lui demande « On ne sait jamais. » Je cherche une personne qui s'appelle Xavier Darmon et qui aurait passé quelque temps dans cet hôtel il y a de cela quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne et savez ce qu'elle est devenue ? L'homme réfléchit, lui dit « Non monsieur, je ne vois pas, mais il passe tellement de personnes dans notre hôtel que nous ne pouvons pas nous souvenir de toutes ces personnes, même si elles restent quelques jours chez nous. Je suis vraiment navré, monsieur. Vous devriez, c'est peut-être, vous renseigner aux commerçants. C'est ce que j'ai fait, et je suis même allé à son adresse, mais malheureusement, personne ne se rappelle de lui. » L'homme réfléchit, lui dit, « Est-ce que vous savez quel métier il faisait ?» Il faisait malheureusement des petits métiers, enfin, pour vivre comme tout le monde, vu le chômage. Je vois, monsieur, mais je ne peux rien vous dire. Merci, monsieur. Xavier se retire tristement et se demande comment il va faire.
Traîne encore pendant quelque temps dans les rues du quartier à réfléchir, à savoir comment il pourrait faire pour savoir si Xavier Darmon et de Sainte-Croix ont réellement habité dans ce quartier ou s'ils n'ont été dans ce quartier que par des rêves. Il marche en étant dans ses pensées et en marchant, tout d'un coup, il lève la tête et il a l'impression de se retrouver dans un de ses rêves. Il lui semble que les gens sont bizarres, que le décor a un côté encore plus lugubre qu'hier. Et puis, il ne sait pas, Il a une drôle d'atmosphère. Il a peur et se dit qu'il est peut-être enfermé dans le monde de Xavier et de Sainte-Croix de Lyon. Il décide de quitter le quartier. Et c'est par le Maine, vers les quais de Saône. Là, un peu perdu et troublé, il s'assoit sur un banc qui est sur les quais. Un clochard s'assoit près de lui. C'est un homme de taille moyenne, les cheveux et barbe abondantes, en broussailles, blanches. Il semble sympathique, habillé de hardes grises et sables. Il a une musette et à la main un morceau de pain avec un couteau. Jean-Pierre, pour ne pas vexer la personne, reste assis sur son banc et fait celui qui ne le voit pas. Le lui dit, « Tu sais, la vie a beaucoup de secrets, de mystères. On croit que l'on est ce que l'on est, et en réalité, on n'est pas ce que l'on est. Et puis, on peut changer et être un autre. Une nuit, j'ai l'impression que j'ai rencontré quelqu'un à qui tu ressembles, mais qui était beaucoup plus jeune que toi. J'ai senti en lui quelque chose de bizarre. Je ne faisais pas partie de son monde et lui ne faisait pas partie de notre monde. Quelque chose m'a forcé à lui dire qu'il fallait qu'il fasse attention à lui, qu'il y avait danger. Et malheureusement, quelque chose me force à te dire à toi aussi la même chose, parce que tu lui ressembles. Méfie-toi. Le monde où tu vis n'est peut-être pas ou plus le vrai monde. Regarde ici, autour de toi, tout ce décor, ces gens qui ne se souviennent de rien. Cela ne te paraît pas étrange? Jean-Pierre le regarde et lui demande, « Pourquoi parlez-vous comme ça ?» L'homme lui dit, « Parce que je suis peut-être le destin. Tu ferais peut-être bien de quitter cette ville étrange qui risque de te prendre. » Et le clochard le quitte. Jean-Pierre est troublé parce que vient de lui dire cet homme et ne comprend pas ce qu'il lui a dit. Mais il a l'impression qu'il faut qu'il quitte de suite cette ville. Il fait signe à un taxi qui passe pour qu'il le mène à la gare de la Part-Dieu. Une fois dans la gare, il entre dans le train qui est déjà sur le quai. C'est un vieux train à vapeur. Il se dit qu'il aurait dû demander au clochard le nom de la personne à qui il a parlé pour savoir si c'était Xavier. Maintenant, il est trop tard, il ne peut le savoir. Si ça avait été Xavier, il aurait su que Xavier a vraiment vécu à Lyon. Il est dans un compartiment vide, c'est des compartiments comme dans les vieux trains. Le train se met en route petit à petit. Sort de la gare. Il est toujours seul dans son compartiment. Le train, une fois sorti de la gare, file de plus en plus vite et fait de plus en plus de bruit. Cela donne le vertige et peur à Jean-Pierre. Il en a des nausées et reste comme paralysé assis, plaqué sur son siège. C'est la première fois que ça lui arrive d'avoir peur et de se sentir mal dans le train. Mais ce train va très vite, très très vite. Il ne sait plus où il en est. Il ne peut pas penser. Il n'ose pas regarder aux fenêtres car cela lui donne le vertige, ce paysage qui file à une vitesse terrible. Puis, il voit tout tourner. Tout tourner. Connaissance. Il se réveille parce qu'il entend des voix autour de lui. Il voit avec surprise que le compartiment où il se trouve est plein de personnes. Il y en a même à côté de lui. Ce sont des hommes, des femmes, qui ont à peu près la cinquantaine, le visage plus ou moins laid et habillé de noir. Ces personnes parlent entre elles, sans faire attention à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, en les regardant, a une drôle d'impression. L'impression qu'on l'entoure, qu'on le surveille. Il n'ose pas bouger ni parler. Au bout d'un moment, il entend ce que disent ces personnes et cela lui fait un drôle d'effet. Un homme à tête osseuse, cheveux gris et courts, habillé d'un costume noir et il a même des gants noirs, dit à une femme plutôt forte à cheveux châtains, le regard sévère, habillé d'une robe noire et qui a elle aussi des gants noirs. D'ailleurs, Jean-Pierre se rend compte que toutes ces personnes ont toutes des gants noirs. Donc, l'homme dit à la femme, « Vous savez qu'il cherche. Il est même allé dans son immeuble. » La femme lui dit d'un air mauvais, « Mais il ne trouvera rien. Tout a été effacé. Nous avons eu raison de le faire. C'est un sale type, celui-là. Et je ne pense pas qu'il soit bon pour remplacer l'autre. » L'homme lui dit, « Malheureusement, nous sommes bien obligés de nous contenter de celui-ci. Il n'y a personne d'autre. » Un autre homme, plutôt gros, chauve, avec de petits yeux, leur dit, « C'est surtout quelqu'un de bizarre. Et c'est tout de même triste que nous n'arrivions pas à trouver une autre personne. Car celui-là, nous ne risquons pas d'arriver à notre but. Vous avez vu comme il a l'air empoté et en plus il est peureux. » La femme lui dit, c'est un intellectuel. Il n'a jamais rien fait dans sa vie que d'écrire. Jean-Pierre a l'impression que l'on parle de lui. Il a peur et n'ose bouger ni rien dire. D'après ce qu'il comprend, ces personnes sont là pour le surveiller, car on veut qu'il prenne la place de Xavier. C'est un complot contre lui. Mais pourquoi veut-on qu'il prenne la place de Xavier? Un autre homme, c'est un homme grand, mince, blond, le regard doux dit. Et puis, il ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Nous le forcerons bien à faire. Et si ça ne marche pas, eh bien, nous ferons comme pour les autres. La femme lui demande, il aurait peut-être fallu faire autrement avec lui. qui ne voit pas ce qu'il a vu et ne lise pas ce qu'il a lu. » L'autre lui dit, « Et comment aurions-nous fait ? Il fallait bien qu'il puisse entrer dans cette histoire et le plus vite possible. Pour ce qui est des autres, nous avons plus de temps et c'est pour cela que nous n'avons pas agi d'une façon aussi brutale. » Le petit homme grandit. En tout cas, c'est mal parti. » Et toutes les personnes, même celles qui n'ont rien dit, regardent Jean-Pierre, qui de honte, malgré lui, baisse les yeux. Il se sent prisonnier et a très peur. Puis personne ne parle et chacun reste dans son coin. Jean-Pierre aimerait bien quitter ce compartiment, mais il n'ose pas bouger. Le trajet lui semble interminable. Il se demande ce qu'il va devenir. Il se sent prisonnier d'un groupe d'hommes, d'une organisation qui semble très dangereuse. Qu'est-ce qu'on lui veut ? Il n'en sait rien. Il ne comprend rien. Et pour ce qui est du secret de l'enfant, qu'il a cru comprendre en lisant le cahier, il ne le connaît pas. Et puis cet enfant est mort depuis fort longtemps et il ne l'a jamais connu. Et que sont ces gens ? Sûrement qu'Auguste fait partie de ce complot. D'ailleurs, ça lui a toujours paru bizarre qu'il cherche, et même cherche, à sympathiser avec lui. C'est qu'il avait de ses raisons. Peut-être est-ce une secte, tout ça. Jean-Pierre ne sait plus. Il ne sait plus trop quoi penser. Toutes ces questions tournent dans sa tête. Et ce sont des questions qui lui semblent invraisemblables. Oui, invraisemblables. Il aimerait, c'est pouvoir quitter tout ça, fuir, aller dans un endroit où il ne pourrait pas être retrouvé. Enfin, le train arrive à Paris. Il reste assis et laisse... sortir les gens qui sont dans son compartiment. Les personnes, en quittant le compartiment, ne font pas attention à lui. Il se dit que, bien sûr, ils n'ont pas besoin de faire attention à lui parce qu'il est surveillé constamment. Enfin, il sort de son compartiment et il va sortir de la gare. Il est en sueur. Il arrive dans son appartement en fin d'après-midi, épuisé, démoralisé, peur et ne sachant ce qu'il doit faire. Il se dit aussi qu'il a fait ce voyage pour rien du tout. C'est même pire qu'avant le voyage, car il sait vraiment qu'il est surveillé par des gens qui semblent dangereux. Il n'a rien appris et se dit que bien sûr, ils ont dû effacer leurs traces, les traces des existences de Xavier et de Sainte-Croix. Ce sont des gens certainement très puissants et qui ont trouvé un pouvoir pour s'emparer des personnes, de leur vie et pour en faire ce qu'ils veulent. Mais comment peuvent-ils s'emparer de ces personnes et de les faire vivre plusieurs vies dans plusieurs lieux différents ? son appartement, il étouffe. Il va ouvrir les fenêtres, malgré qu'il fait froid, et va à la cuisine prendre un verre d'eau, puis il va dans sa chambre quitter son manteau. Il ne sait que faire. Le cahier décide de le cacher sous son matelas et n'a plus envie de l'ouvrir. Le téléphone sonne. Il décroche.
Allô? Bonjour Jean-Pierre, c'est moi, Auguste.
Jean-Pierre sursaute. Il aimerait bien s'arrêter la communication, mais il n'ose pas. Alors il dit,
bonjour Auguste.
Auguste lui demande,
vous allez bien?
Oui, merci.
J'ai essayé de vous avoir
au téléphone toute la journée d'hier.
Vous étiez absent?
Oui, j'ai été obligé de faire un petit voyage.
Ah,
oui, c'était pour mon travail.
Je vois, pour votre nouveau roman.
Oui, c'est cela.
Et votre voyage vous a donné des informations intéressantes?
Non, pas vraiment. Au lieu de me donner des réponses sur ce que je cherchais, ça a compliqué plutôt les solutions que je cherchais.
Ça arrive. Moi-même, je cherche à résoudre un problème d'une certaine façon et cela complique les choses.
Oui, Jean-Pierre en a marre. Il ne sait quoi lui dire. Il a peur. Car il sent qu'il fait partie du complot.
Auguste lui dit, je cherche à vous avoir pour vous demander si vous accepteriez de passer la soirée avec moi samedi soir.
Je ne sais pas.
Je comprends. Vous êtes peut-être pris.
Oui, c'est ça.
Tant pis pour moi. J'ai bien aimé vous avoir, car j'aime bien discuter avec vous. Et puis, nous avons beaucoup de choses qui nous unissent.
Jean-Pierre se demande quelles choses, à moins que ce soit des choses pour s'emparer de lui.
Moi aussi, mais je ne peux pas. Ma foi, tant pis pour moi. Certainement, à une autre fois.
Oui, c'est ça.
Bon, eh bien, je vais vous laisser travailler. Au revoir.
Au revoir. Et la communication s'est arrêtée. Ouf.
Xavier a peur d'avoir été trop froid avec Auguste et qu'il se rende compte qu'il a compris quelque chose. Cela risque d'être dangereux pour lui. Durant toute la journée, il se sent épié. Il n'ose plus rien faire. Et d'ailleurs, il n'a envie de ne rien faire. Au bout d'un moment, il se dit qu'il faut absolument qu'il fasse quelque chose, parce qu'il ne peut pas vivre constamment de cette façon. La nuit continue à faire des rêves étranges et a de plus en plus de difficultés à reprendre ses esprits. Les jours passent, il reste enfermé dans son appartement, il fait des rêves où il a l'impression qu'il est un autre et qu'il se trouve à Lyon dans une chambre minable. Dans la journée, il a l'impression que l'appartement où il vit n'est pas le sien et que sa vie n'est pas la sienne, mais que sa vraie vie est celle de Xavier Sainte-Croix. Dans la journée, il a des flashs d'une autre vie, d'une vie dans un autre appartement. Il voit une vieille femme qui qui lui sourit et lui parle de choses qu'il ne comprend pas. Il voit un jeune homme près de lui qui lui dit qu'il est de Sainte-Croix. Lorsqu'il reprend ses esprits pour pouvoir être sûr d'être qui il est, il relit le cahier. Et en le relisant, il s'aperçoit que ses flashs lui font revivre certaines scènes qu'a vécues Xavier. Le matin, il se réveille. Il est dans une chambre minable. Il va à la fenêtre et voit qu'il se trouve où a habité Xavier à Lyon. Il panique. Il veut retourner dans son monde et décide de sortir. Il court comme un fou dans les rues. Il a beau courir dans tous les sens, il n'arrive pas à sortir du quartier. Il panique et a peur de rester définitivement dans cette vie. En plus, il a faim, très faim. En passant devant une vitrine, il voit qu'il est habillé d'une pauvre façon très pauvre. Il cherche dans ses poches un peu de monnaie pour s'acheter quelque chose et voit que ses poches sont vides. Il se dit que bien sûr Xavier avait des périodes où il ne pouvait même pas s'acheter de quoi manger. Il panique de plus en plus. Il court dans tous les sens, dans les rues. Il a peur de ne pouvoir retourner dans sa vie. Il décide de retourner à Paris en train. Mais malheureusement, il n'a pas d'argent pour prendre un transport quelconque. Et il est obligé d'aller à la gare à pied. Il se met à marcher pour aller à la gare. Et malheureusement, il s'aperçoit qu'il tourne en rond dans ce quartier. Il se dit qu'on ne veut pas qu'il sorte de ce quartier. Cela l'énerve. Mais il ne peut rien faire. Une puissance plus forte que lui le force à vivre comme ça. On veut qu'il devienne Xavier. Épuisé, mourant de faim, démoralisé et ayant peur, sur lesquels il s'assoit sur un banc. Vient s'asseoir sur le banc le clochard qu'il a déjà vu. Il se dit que lui aussi doit faire partie du complot, mais n'ose pas quitter le banc. Le clochard lui dit « Tu ferais mieux de te laisser aller. Cela ne sert à rien de résister à ce que l'on veut que l'on fasse. Regarde-moi. La société veut que je sois ce que je sois. Eh bien, je suis et je reste ce que je suis, sans chercher à vivre une autre vie. On m'a fait devenir clochard et je reste clochard. Je fais partie du décor. Eh bien, pour toi c'est la même chose. On veut que tu sois quelqu'un d'autre et tu fais partie du décor en étant cette personne. » Jean-Pierre, agacé, lui dit « Mais moi, c'est pas la même chose. Ce sont ces criminels qui veulent me forcer à vivre une autre vie que la mienne. Moi, j'avais déjà une vie à l'intérieur de la société. J'ai, et j'ai peut-être encore, un nom reconnu pour ce que j'ai fait. J'ai créé des choses que la société reconnaît. Donc, on n'a pas à me changer de vie. Pour vous, ce n'est peut-être pas la même chose. Vous n'aviez peut-être rien. Vous avez tout perdu et c'est pour cela qu'on vous a forcé à vivre ce que vous vivez. Mais moi, si on me force à vivre ce qu'ils veulent, on m'enlève tout et je ne suis plus rien, même pas ce que vous êtes. »
C'est ce que tu crois. Oui,
C'est ce que tu crois. Mais peut-être que la société, les hommes, ont besoin que tu deviennes une autre personne. Car ça leur sera plus utile que ce que tu es en ce moment. En ce moment, je ne suis rien. Et je vis entre deux mondes. On me peut me faire prendre la place d'une personne qui n'avait rien et qui lui aussi, on voulait lui faire prendre la place d'une autre personne qui était morte depuis fort longtemps pour pouvoir prendre quelque chose. C'est compliqué tout ça. Je n'y comprends rien. Moi, la mienne est plus simple. Malheureusement, maintenant je vis simplement et je ne me pose plus de questions. Bien sûr, au début, je n'étais pas heureux de vivre comme je vis maintenant. Mais à la longue, je me suis fait une raison. Et puis j'ai réussi à devenir un personnage dans le quartier. Je suis devenu le clochard du coin, que tout le monde aime et même les enfants aiment. Toi aussi, à la longue, tu as accepté de vivre la nouvelle vie que tu as et que tu en seras satisfait. Certainement pas, parce que la vie qu'on veut me faire vivre risque d'être dangereuse pour moi. On risque, si je ne leur obéis pas, de me faire tuer. Ce sont des gens très dangereux et qui me surveillent. Je vois. Tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'il y a des complots qui nous forcent à vivre certaines choses et qui dirigent la vie. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est beaucoup plus simple, la vie. Je te conseille, c'est de te détendre et d'oublier que l'on t'espionne ou autre. Qui voudrais-tu que l'on t'espionne? Toi, une personne si insignifiante, tu n'as rien, tu ne sais rien. Peut-être bien, mais eux pensent que je peux leur apporter quelque chose.
Et comment?
Peut-être bien, j'en sais rien, mais eux pensent que je peux leur apporter ce qu'ils cherchent.
Et comment?
En vivant la vie d'une personne qui a peut-être un secret.
Tout ça, c'est très compliqué. Et en ce moment, tu vis quelle vie?
La vie d'un autre. On m'enferme dans la vie, dans sa vie, et je ne peux pas sortir de son monde pour retourner dans le mien.
Tu n'as pas de chaîne. Personne ne t'empêche de quitter le monde, comme tu dis, et d'aller ailleurs.
C'est ce que tu crois. Et puis, je n'ai même pas d'argent pour quitter Lyon.
Le clochard lui dit, ce n'est pas difficile pour ce qui est de l'argent.
Thank you. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, le scénario original de Jean-Pierre Junier, de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.